Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Cette nouvelle épopée des musiques noires avec un groupe apparu au tournant des années 70 aux États-Unis et dont l'influence sur le paysage musical afro-américain continue de susciter l'intérêt des créateurs d'aujourd'hui. Cette formation historique, Sly and the Family Stone, ouvre le tome 2 d'une collection sobrement intitulée Soul Music et dont nous allons parler avec son auteur, le conférencier, enseignant, musicien et écrivain Christophe Delbrouck. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je précise que vous n'êtes pas en studio à nos côtés, mais à distance, afin de respecter les mesures sanitaires liées au coronavirus. Nous allons cependant évoquer avec vous cet ouvrage de 275 pages qui survole avec force détail la période 1970-1984, car vous aviez déjà fait paraître l'année dernière le tome 1, 1920-1970. À quand remonte pour vous la naissance de la soul music ?
Oula, ça c'est une question très très complexe. C'est une musique qui vient du gospel, donc elle remonte au 19e siècle, elle remonte au chant ancestral en Afrique, au 17e siècle, enfin bon, c'est très très complexe. La notion de soul music dans l'industrie musicale, elle est, c'est plutôt les années 60.
On dit que Ray Charles est l'inventeur de la soul music parce qu'il a su conjuguer les répertoires sacrés et profanes, les negro spirituals et le blues. Est-ce que c'est une bonne définition ?
Oui, ça peut l'être si on considère que la soul représente justement le mariage entre la musique sacrée et la musique profane. Ça existait bien avant. Il y a des emblèmes, il y a des icônes avant Ray Charles, mais il est très très important parce qu'il va faire comprendre à une jeune population blanche que la réalité du discours, que la sincérité est prédominante dans la musique et ça va vraiment changer la donne.
Dans le volume 1 de votre étude de la soul music, on sent la revendication de la communauté noire s'affirmer au fil des années. La soul music est-elle davantage l'expression d'un combat que le blues, le gospel ou le jazz ?
Non, c'est la même chose. C'est toujours l'expression d'une sincérité. Et elle s'entend dans la voix quand c'est chanté, elle s'entend dans le timbre. Donc c'est toujours de la musique. Le combat de la musique noire américaine, ça a été un combat pour le droit d'exister, de pouvoir se faire entendre. C'est le problème majeur de tous ces musiciens de jazz dans les années 20, 30, 40, 50, et puis ceux de rhythm and blues et de soul music, ça a été simplement de se faire entendre.
Venons-en à l'introduction de l'acte 2 de votre anthologie historique parue aux éditions du Layeur. Peut-on dire que les années 70 sont marquées par la désillusion après la ferveur du mouvement des droits civiques ?
Pas exactement, je pense pas. Sly Stone est très très important parce qu'il va épouser le mouvement psychédélique qui est vraiment le grand mouvement musical contestataire parmi la population blanche. Donc c'est une sorte de ralliement et de conjonction entre toutes les luttes culturelles. Donc il est vraiment important. Mais évidemment, il y a plusieurs électrochocs dans les années 60. Mais l'essor de la musique noire ne va pas venir de ce combat-là. C'est un combat à l'échelle industrielle. C'est-à-dire que, pour faire simple, la majorité morale aux États-Unis a beaucoup lutté contre la musique noire parce qu'elle était comprise comme une incitation à la sauvagerie, à la débauche. Elle parlait de rapports charnels, enfin, elle était très incorrecte. Le problème de l'industrie blanche américaine, c'est que quand toutes les invasions de pop anglais sont arrivées dans les années 60, il a fallu trouver une parade. Et la parade folk, contestataire, gauchiste de Dylan ne les emballait pas. Ils ont ouvert les vannes à la musique noire américaine, celle de la Motown, celle d'Atlantique, qui, sous condition, en véhiculant des valeurs un petit peu plus posées, matures, entre guillemets, et chastes, ont eu le droit d'exister. Donc le combat, à mon sens, décisif dans cette musique noire américaine, il est commercial, il est industriel. Et c'est évidemment un combat qu'ils ont gagné.
Cela veut-il dire que les œuvres musicales de la décennie 1970-1980 sont moins revendicatrices qu'auparavant ?
Non, elles le sont. Mais si cette musique était restée marginale ou si elle avait continué d'être marginalisée par l'industrie pour toutes sortes de problématiques, elle n'aurait jamais infusé sur le monde entier. Pour que What's Going On de Marvin Gaye soit un pamphlet planétaire, il a bien fallu que les albums soient très correctement diffusés, autant à la radio et placés dans le monde entier. Et ça, c'est une donnée industrielle.
Quel artiste ou quel groupe vous paraît mener la bataille de la contestation au cœur des années 70 ?
Au cœur des années 70, je pense James Brown. Alors évidemment, il y en a beaucoup, Curtis Mayfield, il y a beaucoup d'auteurs sont ouvertement engagés. J'aime bien le rapport organique primal de James Brown, j'aime bien l'engagement, une espèce de sensation de parler pour les minorités, de parler pour les gens délaissés, toute cette clientèle qu'on va flatter avec l'arrivée du rap, c'est des gens à qui James Brown s'adresse d'une manière très très directe, très violente, masquée parce qu'elle est raffinée dans son écriture, dans la manière de l'interpréter, mais l'énergie est réelle. Et je pense que son engagement musical est beaucoup plus subtil que la plupart des pamphlets autodéclarés durant les années 70.
Et qu'en est-il de son engagement citoyen ? Parce qu'il a quand même soutenu Richard Nixon. Il s'est un petit peu compromis à un certain moment.
Oui, il a commis quelques boulettes. C'est quelqu'un d'impulsif qui réagit très très vite. Il s'est trompé avec Nixon. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais ce que véhicule sa musique, c'est quelque chose qui peut-être le dépasse, ou en tout cas, c'est un message de résistance. C'est pas un message de rébellion, c'est un message de résistance. C'est de l'énergie pure, brute, enfin comprise comme de l'énergie brute, qui véhicule des valeurs très très fortes. Avec Aretha Franklin, c'est pareil. Mais je pense que lui, c'est vraiment une des icônes les plus influentes des années 70 pour ces raisons-là.
Et Stevie Wonder, alors ?
Alors Stevie Wonder, la carrière de Stevie Wonder, elle est très très particulière, puisque comme pour Marvin Gaye, pour les Jackson 5, tout ça, la condition pour exister, c'était de parler de choses platoniques. À partir du moment où il a voulu développer sa conscience politique et socioculturelle, c'est devenu très très compliqué pour lui d'arriver à continuer d'exister dans le giron de la Motown auprès de Berry Gordy, le patron. Et il a dû ruser, il a dû faire croire qu'il allait sur un concept un peu facile, et puis il changeait d'optique en cours de route. Marvin Gaye a fait la même chose. Marvin Gaye a quand même caché entièrement son projet d'écriture, d'enregistrement de What's Going On. Il n'a pas voulu révéler les paroles, même auprès de ses musiciens. Ces artistes-là ont été obligés de cacher leurs intentions pour pouvoir les faire exister. À partir du moment où l'album sortait et qu'il faisait des belles entrées dans les classements américains, là, c'est bon, ils étaient valorisés. Mais il fallait vraiment se battre continuellement, et pour eux aussi.
Est-ce que vous diriez que l'album Songs in the Key of Life de Stevie Wonder est une œuvre politique ?
Oui, bien sûr, mais elle est détournée. Le concept global, c'est un album pop, c'est une espèce de patchwork qui passe du coq à l'âne, qui a des sujets plus ou moins engagés, mais jamais aussi clairement que les protest songs qu'on trouve dans la culture pop folk californienne. Mais oui, bien sûr, ça parle de choses très importantes. Le problème des ghettos, c'est un problème dont tous les grands chanteurs soul ont parlé, qui va éclater 10 ans plus tard. Il en parle déjà, il parle de choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Mais tout ça est décoré, il y a un bolduc pop qui fait passer ça pour de la musique de masse, quelque chose qui va séduire les masses médias. Mais l'intention, elle est encore une fois très très subtile.
Dans votre livre, Christophe Delbrouck, vous notez 2 titres particulièrement revendicatifs de Stevie Wonder dans cet album, Songs in the Key of Life, Black Man et Village Ghetto Land. Que disent précisément ces chansons ?
Alors évidemment, elles parlent d'un problème qui a émergé, enfin pour Stevie Wonder, avec les émeutes de Watts en 65. et un phénomène d'aveuglement, de banalisation, qui a fait que la condition de vie des Noirs dans les ghettos des grandes cités était méprisée. Et à partir du moment où les problèmes n'ont pas cessé d'empirer, les politiques menées n'étaient pas du tout adaptées, puisque la plupart des hommes politiques concernés n'allaient pas sur place. Des musiciens conscients, engagés, qui ont une vraie maturité artistique et qui savent exactement quel poids vont peser les mots, vont commencer à parler très très clairement de la pauvreté et de la pauvreté dans les communautés noires américaines.
Écoutons Black Man, Stevie Wonder en 1976. Blackman, Stevie Wonder en 1976, extrait de l'album Songs in the Key of Life. Christophe Delbrouck, au fil des pages de votre ouvrage, Soul Music, acte 2, on perçoit la transformation progressive de la société américaine et les choix artistiques qui l'accompagnent. Est-ce que le funk scintillant d'Earthwind and Fire ou de Kool & The Gang n'annonce pas la fin d'un militantisme musical au profit d'une humeur plus positive, légère, dédiée au spectacle et à la danse, plus qu'à l'engagement citoyen ?
Je pense pas. Je crois que l'engagement de Maurice White et de Earthwind and Fire est vraiment très très important au début des années 70. C'est une musique qui est liée au jazz. Bon, les appellations, la soul, le funk, ça n'a pas grande signification, mais quand même, le funk valide l'expression jazzique dans la musique populaire noire. Donc ça leur permet d'improviser, ça permet. Mais le discours ne change pas. Le funk de Kool & The Gang, c'est la même chose. Je pense simplement qu'il y a des problèmes éthiques qui se sont posés, qui ont vraiment gêné la majorité morale. C'est un problème d'ordre sexuel dans la représentation de cette musique-là. Et je pense que l'industrie du disco a été fabriquée pour que la majorité morale puisse exercer un contrôle total sur la musique noire américaine. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas anticipé le fait que l'argent gagné en produisant des hits disco rendrait les compagnies indépendantes. Mais je pense qu'il y a un combat éthique, moral, mené par la société blanche dans les années 70 qui va essayer de gêner l'essor du funk. Mais l'engagement politique dans le funk, il est semblable à celui de la soul dans les années 60.
Nous avons ouvert l'émission avec Sly and the Family Stone, groupe éminemment politique. Est-ce que son impact a résisté à l'érosion du disco ?
Oui, je pense. Il y a une évolution graduelle dans Earthwind and Fire qui est très très agréable. Leur combat à la fin des années 70, ça a été justement de résister à l'invasion disco. Et continuer à faire de la vulgarisation sans détruire pour autant les valeurs rythmiques dans cette musique-là. Le disco a écrasé tous les temps, a martelé tous les temps. James Brown a eu beaucoup, beaucoup de mal à admettre ça. Et Earthwind and Fire a réussi à produire des hits qui étaient aussi de la vulgarisation, mais quand même très, très élaborés. Évidemment, on va trouver du disco d'extrême qualité. Il y a des albums d'Herbie Hancock qui sont exceptionnels. Il y a beaucoup de choses, mais le défi, toujours le même, va être de résister aux édulcorants de l'industrie de masse.
Est-ce que le disco, c'est encore de la soul music ?
Oui, je pense, bien sûr. Après, il faut décoder, il y a beaucoup de messages cachés dans le disco comme à l'époque du rhythm and blues dans les années 50. Mais oui, bien sûr, ça reste encore une musique qui est profane, qui est religieuse et qui associe des valeurs primordiales comme la liberté comportementale. Simplement, on n'est plus dans des phénomènes de censure puisque l'industrie ne peut plus censurer des choses qui rapportent autant de pognon.
C'est quand même une fracture temporelle majeure, le disco, non ?
Oui, bien sûr, c'est une fracture parce que l'industrie a voulu imposer cette musique-là contre les autres. Les problèmes sont toujours les mêmes. L'industrie américaine essaie de proposer quelque chose de soi-disant neuf pour essayer d'atténuer l'impact de ce qui les gêne. Le phénomène du disco, évidemment, ça a infusé jusque dans les séries télé américaines et dans les publicités et partout. N'oublions pas quand même, même si on peut considérer que la plupart des grands hits sont des choses qui ont été fabriquées et pas très bien fabriquées, il y a quand même un double message, y compris chez Village People. Toute cette promotion des valeurs homosexuelles dans Village People, elles sont assumées, en sachant pertinemment que la majorité morale ne saura pas lire ce genre de message. C'est extrêmement rusé, c'est pratiquement aussi rusé que Little Richard avec Tutti Frutti, c'est exceptionnel.
Que revendique un groupe comme Chic, emmené par le guitariste Nile Rodgers ?
Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont revendiqué. Leur ascension est complètement hasardeuse, ça part sur un quiproquo. Je pense que leur qualité musicale était exceptionnelle et qu'ils ont simplement été très très réalistes en parodiant la musique disco et puis en comprenant qu'il y avait des choses à produire assez originales en brassant ce type de musique. Donc ils ont simplement exprimé leur créativité avec beaucoup de réalisme en fonction du marché.
Je vous parlais de Nile Rodgers et de la revendication du groupe Chic parce que Nile Rodgers a été un Black Panther.
Oui, alors c'est des choses qu'il a eu du mal à assumer par la suite. Il parle d'erreurs de jeunesse. Ils sont très très nombreux dans ce cas-là. Je ne pense pas que ça ait une implication dans sa musique. Je pense qu'il voit les choses complètement différemment. C'est un musicien, quand il fait de la musique, il fait de la musique. Il fait pas autre chose, je pense.
Et même si l'univers disco-funk de Nile Rodgers nous a longtemps paru clinquant et préfabriqué, je ne résiste pas, Christophe Delbrouck, à l'envie d'écouter le fameux Freak Out du groupe Chic en 1978. The Freak, c'était le groupe Chic emmené par Nile Rodgers et Bernard Edwards en 1978. Christophe Delbrouck, peut-on dire que deux Amériques noires se font face à l'aube des années 80, les rappeurs et les danseurs ?
Oh, je sais pas. Je pense que la musique noire américaine, l'industrie noire américaine qui est devenue indépendante et très très puissante avec la Motown, avec Stax, même si malheureusement ça s'est très très mal fini, je pense qu'il y a toute une sorte de conflits industriels qui ont générer l'essor d'une musique rurale très très ancienne qu'on appelait le hip-hop, le rap, mais qui existait dans les années 10 déjà, c'est-à-dire de la manière de danser, cette manière de parler, ça existait depuis très très longtemps. Le smurf, le hip-hop, c'était des figures qui se faisaient probablement déjà au 19e siècle. Enfin, il y a des choses complètement impensables et qui se sont véhiculées comme ça parce qu'elles étaient marginales et essentielles à la fois. Et je pense que l'industrie noire, celle de Berry Gordy, c'est un peu sclérosé et je pense qu'ils sont arrivés à une étape où ils n'avaient plus grand-chose à dire, où ils ne savaient plus comment le dire, et cette musique-là est apparue providentiellement à ce moment-là.
Quels artistes parviendront à résister à l'uniformisation imposée par l'industrie du disque ?
Je pense que ce que réalise Michael Jackson est complètement extraordinaire, puisque c'est complètement émancipé des codes de la musique noire américaine, ça c'est très très fort. Faire jouer Eddie Van Halen, qui joue un solo de hard rock, enfin qu'on n'a rien à foutre de l'éthique de la musique noire américaine, c'est pratiquement visionnaire. La musique de Prince, très marginale, très synthétique, c'est un coup de génie. Et puis voilà, il va y en avoir d'autres après. Il y a des rappeurs américains qui sont vraiment très créatifs. La créativité de la musique nord-américaine, elle est continuelle. Elle n'apparaît pas toujours au sommet pour des raisons de lisibilité commerciale, mais elle est constante. Elle est constante depuis le début du XXe siècle.
Est-ce que George Clinton est un rebelle ou un visionnaire lorsqu'il invente le concept de P-Funk?
Je pense qu'il est, indépendant, il a un souci d'indépendance totale, il a un mépris du business, et justement, il va y avoir une ouverture très brève à la fin des années 70, où ça devient une image iconique, c'est-à-dire avoir un dédain du business, c'est commercial. Et il va avoir la possibilité d'émerger à ce moment-là, mais après 10 années de galère.
Sly Stone et George Clinton sont de la même génération, les années 40. Ce sont aujourd'hui des septuagénaires fort respectés. Qu'ont-ils apporté à la soul music et à leurs héritiers ?
Bon, Sly Stone, évidemment, un grand chatcheur, un orchestrateur, quelqu'un qui sait bien s'entourer, et notamment qui révèle Larry Graham, quand même, qui va introduire le slap dans la musique populaire.
Qui est une technique de basse bien connue avec le pouce.
Jouer au pouce, très percutante, qui était déjà utilisée par les contrebassistes dans les années 10 et 20 quand ils voulaient se faire entendre. Donc c'est pas neuf, mais il transpose ça sur une basse électrique et il arrive à produire quelque chose de très très spectaculaire qui va vraiment faire école. Donc Sly Stone, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. George Clinton, c'est pareil. Et puis, il a une volonté de ne pas faire partie de la meute qui rassemble, qui fascine les gens. On entend ça constamment dans sa musique. Il est tout le temps en marge, il est tout le temps bien, c'est jamais vraiment ci, jamais vraiment ça. Ça flirte avec beaucoup de choses. Donc, ils ont une importance. Ils ont fonctionné comme des électrons libres, je pense.
Shut up already! Damn!
Diriez-vous que Prince fait le lien entre plusieurs générations, plusieurs époques, plusieurs approches commerciales et artistiques?
Il y a quelque chose qui est très important avec Prince, c'est la dimension sociopolitique. De ce point de vue-là, il est en prise avec la musique noire des années 50, 60, sans aucun problème. Et il arrive avec un discours contestataire qui est très adapté à la situation politique des années 80 aux États-Unis, qui est l'élection de Ronald Reagan, qui va poser énormément de problèmes aux musiciens en réactivant les censures. Donc un personnage très très réactionnaire, et le discours de Prince est... Son discours politique, son implication politique, elle est à la mesure des actions politiques féministes d'Aretha Franklin. Il fait le lien, oui, ça, il n'y a aucun doute.
Votre livre, Christophe Delbrück, s'achève sur deux icônes des années 80, Prince et Michael Jackson. Qu'ont-ils en commun plutôt que de noter leurs différences?
Alors, qu'est-ce qu'ils auraient en commun, tous les deux? Je ne me suis pas posé la question. Je ne pense pas qu'ils aient grand-chose en commun, hormis la manière de travailler. De travailler graduellement sur des orchestrations. Cela dit, c'est des personnages mais totalement opposés. Michael Jackson a démarré sa carrière avec un discours platonique, à contre-courant. C'est-à-dire qu'il a réussi parce qu'il parlait de choses qui n'avaient aucune importance sociopolitique. Prince, à l'inverse, lui, il arrive à percer parce qu'il a un discours politique, il a un discours protestataire. Il est contre tel type de gouvernement. Donc ils sont très très opposés.
Pourquoi ont-ils à ce point marqué notre temps? Ont-ils mieux compris leur époque que certains de leurs contemporains?
Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment. La carrière de Michael Jackson, sa carrière solo, démarre à peu près en même temps que Chic, donc à une époque où les gens ne veulent plus consommer de disco, donc il y a une ouverture possible. Et puis, il s'entoure très très bien, et puis il y a des qualités musicales exceptionnelles. Prince, c'est pareil. Je pense qu'il faut avoir de la chance et être capable de comprendre que ce qu'on propose, il faut savoir l'exploiter. L'exploiter sans vendre son âme, ce qu'a jamais voulu faire George Clinton et d'autres, Marvin Gaye. Voilà, mais il faut être capable d'assumer ce qu'on veut représenter.
Lequel de ces deux artistes a votre préférence et pourquoi ?
Je pense que Michael Jackson est incroyable. Ses conditions de vie au départ, je pense que les contraintes morales, professionnelles ont été complètement inouïes. Je pense que son comeback de la fin des années 70 est exceptionnel. Le choix de musicien, l'obstination dans le travail, c'est-à-dire faire 200 prises, faire venir 40 pianistes pour découper mesure par mesure quelque chose d'idéal, c'est assez exceptionnel.
Donc votre préférence va à Michael Jackson ?
Plutôt oui.
Je vous avais compris. Nous sommes sensiblement d'accord avec vous. Voici Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson en 1983 sur le fameux album Thriller que l'on ne présente plus. Christophe Delbrouck, votre livre s'achève en 1984. 36 ans ont passé depuis cette époque glorieuse. Malgré tout, est-ce que certains artistes vous paraissent émerger aujourd'hui dans l'abondante production discographique de ce 21e siècle ?
Oui, il y en a probablement, mais après il faut voir sur le temps. C'est difficile de parler d'innovation pour ce qui concerne Pharrell Williams ou des gens comme ça. Pour Amy Winehouse, c'est pareil. Il faut du temps pour pouvoir mettre les choses en perspective. Il y a un lien, il y a une signature vocale exceptionnelle chez Amy Winehouse qui renvoie vers Aretha Franklin. Il y a quelqu'un qui m'a passionné, Esperanza Spalding, qui est intergenre, qui est capable de faire du R&B et du jazz modal très très compliqué. Il faut du temps pour pouvoir apprécier l'avant-garde des uns et des autres.
Merci de vos prescriptions, Christophe Delbrouck, et au plaisir de converser à nouveau ensemble.
Merci.
Je rappelle que Soul Music Acte 2 est disponible aux éditions du Layer. L'émission du jour était réalisée par notre Lady Soul, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
Shut up already. Damn.